Eh bien, Seigneur notre Dieu, merci pour ce nouveau dimanche que nous passons ensemble encore au château. Mais Seigneur Jésus, c'est pour peu de temps. Nous te remercions, mon Dieu, du temps qui passe et qui nous affine. Je te remercie, mon Dieu, de nous donner cette parole ce matin qui va nous donner des nouvelles idées pour pouvoir nous comporter à ta gloire. Merci Jésus, sois béni, glorifié dans nos cœurs, que chacun ait l'intelligence de comprendre ce qui va être dit. Merci Jésus. Amen. Amen. Du haut des cieux, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ceux dont le cœur. Il entend tes prières, il connaît tes misères, les secrets de ta vie, il t'aime à l'infini, il a souffert pour toi, la mort à Golgotha, et c'est pour Je ne sais pas si sur l'enregistrement on se rend compte combien vous chantez bien. Bravo. On fait Genèse, on va lire Genèse chapitre 5, versets 1 à 2 s'il vous plaît. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Vendredi soir, je vous parlais de ressembler à Jésus. Et nous avons un beau chant qui dit ça, de ressembler à Jésus. C'est mon espoir suprême. Ben, et je concluais en disant, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est tout un programme. Et je vous disais que sans une intimité avec lui, on ne peut pas arriver à lui ressembler. Dans Jean 15, 15, il y a quelque chose de magnifique. Il est dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est bon? Amen. Nous sommes les amis de Dieu si nous faisons ce qu'il nous commande. Et ce qu'il nous commande, il y a beaucoup de choses, hein? Et nous avons appris tellement de choses depuis que nous sommes rentrés dans le rétablissement de toutes choses. Et plus nous obéissons, plus il nous met dans la confidence et plus il nous fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Et cela, c'est une grande richesse pour nous et pour l'Église, pour l'histoire. Ça a une très grande importance. Dieu nous a créés à sa ressemblance et nous sommes donc capables de le comprendre. Mon chien, il comprend certains mots, hein, mais il ne peut pas me comprendre vraiment. Là, par exemple, il a choisi de dormir, il dort. Parce qu'il ne peut pas comprendre ce que je dis, ça, c'est pas possible. Nous ne sommes pas de la même nature, mais nous sommes de la même nature de Dieu et nous pouvons le comprendre puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui est dit dans Genèse 5.1, c'est ce qui est dit, nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Et Adam, il est dit juste après, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Que nous révèle la Bible? La Bible nous révèle que Dieu est un. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes donc un. C'est ça que signifie le mot intègre. Ça veut dire un, être un. Seth était aussi un. Et tous les fils d'Adam sont un, c'est-à-dire sont uniques. Oui, mais ça, c'est ce que nous percevons avec nos sens. Ça, c'est ce que nous percevons avec nos sens. Nous devons acquérir une autre vision, celle que donne l'enseignement de Jésus quand il prie. Il prie, je te prie, Père, pour que il soit un, que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un. Il dit, tu es en moi et moi je suis en toi. Et cela, nous tendons à cela. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que nous devons être intègres soi-même, que nous devons être un nous-mêmes, qu'on ne doit pas être double. Mais que, ou triple, il y en a, ils sont tellement schizophrènes qu'ils sont nombreux là-dedans, hein, il y a du fourbi. Hein. Mais nous devons être un nous-mêmes, mais nous devons être un avec les autres. C'est ça la prière de Jésus. Autant que lui, quand il était sur terre, il était un avec son Père. Toi en moi, moi en toi, nous sommes un. Dans l'histoire du Petit Prince, le Petit Prince disait que l'essentiel ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Et nous, c'est avec le cœur que nous avons compris l'unité du corps de Christ. Nous souffrions dans les églises parce que nous n'avions pas de vraie communion fraternelle. Nous étions le dimanche, voilà, et puis après, ben, c'était fini. C'était difficile et c'était une souffrance pour Michou et pour moi. Et on voulait autre chose. Et c'est avec le cœur que nous avons décidé de vivre l'Église en communauté, comme ça se faisait dans le premier siècle, juste après la résurrection de Jésus. Il nous est dit qu'ils étaient un seul cœur, une seule âme. Une âme, c'est un être. Ils étaient un seul être. Alors, un seul être, jusqu'à ce que l'amour se refroidisse dans le cœur de certains, selon Apocalypse 2, 4, et ça s'est refroidi assez rapidement. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Nos yeux se sont ouverts sur la vérité biblique. La volonté de Dieu, c'est que chaque âme, chaque être vivant qui est unique et qui est intègre, s'unisse aux autres au point de devenir un seul être vivant, l'épouse de Christ. Et ça, ce n'est pas juste de la poésie. Depuis 1977, nous le vivons et c'est visible. C'est visible. Bien que, il y en ait parmi nous, il y a eu des Ananias, il y a eu des Saphira, il y a eu des Alexandre le forgeron, il y a eu des Simon le magicien, etc., etc. Toutes sortes de personnages qui sont sortis du milieu de nous. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est uniquement dans notre communauté, dans l'Église primitive, ça s'est aussi produit au temps des apôtres. Déjà, Jean écrivait, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, sous-entendu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean 2, 19. Donc, ça n'est pas. On ne peut pas dire oui, Michel, c'est parce que tu as un sale caractère, tu fais fuir les gens. Non, c'est pas ça qui fait fuir les gens, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous continuons à être un seul cœur, à être une seule âme, parce que c'est notre destin. L'autre jour, je parlais avec Anne Monnet. Vous connaissez tous Anne Monnet, la femme de Jean Monnet. Et ils ont vécu en communauté, comme ça, une vingtaine d'années. Puis après, il y avait un scandale, leur pasteur est tombé dans le péché, tout ça, ça s'est dissous. Puis elle me disait, mais de toute façon, la vie communautaire, ce n'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps. Je dis, ah bon, pardon, excuse-moi, mais nous, on continue, hein. S'il y en a qui arrêtent, c'est bon, ben voilà, ils arrêtent, mais nous, on continue. Ah bon? Je dis, mais bien sûr, on continue. La majorité de ceux qui sont dans la communauté continuent. On continue. Parce que c'est notre destin. Nous sommes l'exaucement de la prière de Jésus. Qu'il soit un, je te prie, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi. C'est le grand problème des églises. Le grand problème de l'humanité aussi, c'est-à-dire ils prient que Dieu les exauce, mais eux, ils n'exaucent pas la prière de Dieu. Et c'est pourquoi ils vont au-devant de grandes tribulations, au-devant de problèmes qui... des choses bizarres. On va lire 1 Pierre 2, 4, 10. 1 Pierre 2, 4, 10. Alors... Il est dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, c'est ce que vous êtes, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mentionne une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, ceux qui ne croient pas dans la parole révélée, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Chacun sa destinée, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Ils ont dit que ça venait du démon ou de la chair. Jésus dit que nous sommes des pierres vivantes. Et lui-même, il dit qu'il est une pierre vivante, la pierre d'angle. Nous formons l'unité de la maison spirituelle de Dieu, le temple de Dieu. Les autres, ils construisent une autre unité, comme celle de Babel. À Babel, c'est très étonnant comme la Bible est très précise. Regardez Genèse 11. Verset 1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, donc ils avaient une unité, hein, là aussi. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. C'est plus des pierres, c'est des briques. Vous voyez ? C'est comme le sacrifice de Caïn, c'est pas tout à fait juste. C'est un sacrifice, mais c'est pas tout à fait juste. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? À Babel, les hommes construisent avec des briques leur servant de pierre. Alors c'est une construction, c'est vrai. C'est comme le Canada Dry, ça ressemble, mais ça n'est pas du... Ils devinrent des étrangers les uns pour les autres, c'est ce que la Bible nous enseigne. Résultat de cela, ils devinrent des étrangers les uns pour les autres. Et ils se sont dispersés. Au début, ils étaient unis pour construire leur truc. Au début, ils étaient unis et tout contents, travaillant. Sifflons en travaillant. Ils étaient tout contents. Ils entendaient chanter des cantiques merveilleux. Tout. Ils construisaient leur... Mais c'est avec des briques. Et ils n'ont pas pu finir ce qu'ils avaient commencé de faire, leur construction. Vous voyez la portée prophétique de cela, l'histoire ne fait que se répéter. Ceux qui connaissent l'Écriture savent donc ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Difficile d'aimer son prochain comme soi-même quand on refuse de l'accepter comme il est. Nous avons accepté les frères et sœurs tels qu'ils étaient, avec leur folie, avec des trucs inouïs, invraisemblables. Nous les avons acceptés. Nous les avons aimés pendant des années. Maintenant, eux, Hein, on rejette une prophétie, et voilà. On juge, on ose juger une prophétie, et là, on n'accepte pas. Au fait, quand Jésus dit que nous devons aimer notre prochain, c'est plus que le mot prochain. Le mot prochain, c'est gentil, c'est français. En hébreu, c'est réa, qui se prononce ra, et qui signifie l'inaccompli. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu aimeras l'inaccompli comme toi-même, tu es aussi un inaccompli. C'est-à-dire, nous sommes des inaccomplis qui devons nous aimer les uns les autres. Ça serait facile d'aimer Michel Janton s'il était parfait. Mais voilà, il n'est pas parfait. Ce serait facile d'aimer Rachel s'il était parfaite. Mais voilà, elle n'est pas parfaite. Aimer Eric Jacques, s'il est... Mais non, lui, il est parfait. Un mauvais exemple. Vous voyez, mes frères et sœurs, il n'y a personne de parfait. Mais, voilà, nous sommes donc des inaccomplis. Et nous sommes accomplis lorsque nous sommes des pierres vivantes qui nous rapprochons de Christ et qui nous mettons ensemble pour former cette maison spirituelle. Nous sommes des inaccomplis et pourtant Dieu dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. Pourquoi alors sommes-nous inaccomplis? Ah! Tu te contredis, Michel, il y a quelque chose, ou alors la Bible dit quelque chose de faux. Eh bien, tout ça parce qu'à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Déjà, dans le jardin d'Éden, nous n'étions pas accomplis. Il nous manquait une chose qui était très importante, une chose que Dieu avait, que Dieu était. Dieu connaissait le bien et le mal. Adam et Ève, non. Donc, ils n'étaient pas tout à fait accomplis. La Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Mais il faut être des disciples, mais pas seulement des disciples, mais des disciples accomplis. Donc Adam et Ève ne connaissaient pas le bien et le mal, donc ils n'étaient pas tout à fait comme Dieu. Hein. Il y avait une mise à jour à faire. Ce matin, j'ai reçu sur mon iPhone la possibilité de faire une mise à jour pour mon Apple Watch. Et voilà, ils m'ont rajouté des tas de choses que je vais découvrir cet après-midi avec plaisir. Eh bien, c'est comme ça avec Dieu. Il nous a créés comme une semence, mais il fallait que nous atteignions un autre stade. Et Dieu leur dit, quand ils étaient dans le jardin, dans l'innocence, « Le jour où tu mangeras du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. » En fait, Dieu voulait leur donner le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils se sont servis avant que Dieu donne. C'est ça qui est bête. Mais normalement, ils auraient dû l'avoir. Ils l'auraient eu, cette mise à jour. Mais, voilà, ils ont désobéi. Ils l'ont pris avant. Ils l'ont volé. Est-ce que Dieu, quand il dit le jour où tu mangeras du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, est-ce que Dieu donne un ordre avec une menace de mort? La plupart des gens pensent que oui. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Mes frères et sœurs, accrochez-vous bien. Bon, j'ai plus peur d'être traité d'hérétique maintenant. Hein. Ça va. Alors écoutez ça. Dieu leur a dit, le jour où tu en mangeras, tu muteras. Oui, tu vas mourir. Il n'aura pas expliqué tout ça, mais ça veut dire, oui, tu vas mourir comme le grain de blé que tu es, afin de pouvoir porter du fruit. Car si le grain ne meurt, il ne peut porter de fruit. Et aussitôt qu'Ève et Adam ont goûté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont commencé leur mutation. Ils sont devenus comme Dieu pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. On trouve ça dans Genèse 3, 22. Dieu se gratte la tête et dit, « Ben voilà, maintenant ils sont comme nous au sujet de la connaissance du bien et du mal. » Ils ont commencé à muter. Et la mutation a continué. Et elle continue encore. Au point que depuis que Jésus est venu en chair, et qu'il est mort à notre place, et qu'il est ressuscité, nous avons tout pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. Comment? au travers des enseignements des vrais apôtres, des vrais prophètes, des vrais docteurs, des vrais évangélistes, des vrais pasteurs, pour l'unité de la foi. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi des disciples doit arriver à être une, selon Éphésiens 4, 13. Sinon, c'est une construction de briques et de brocs, mais pas de pierres. Jésus est une pierre, et nous devons aussi être des pierres et pas des briques. Alors oui, par le péché, nous sommes séparés de Dieu, de la vie, en cela nous sommes morts, Adam et Ève sont morts, ont été séparés de Dieu, mais par la foi, cette mort se transforme en mutation. Adam et Ève pouvaient manger de tout, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se nourrir de tout, intégrer tout, se nourrir de toutes ces grâces que Dieu avait placées sur cette terre. Ils pouvaient tout bouffer, tout manger, et toutes ces grâces sont symbolisées là par les herbes, par les fruits, par tout ce qui est vivant, hein. Et toute cette nourriture remplit l'homme, remplit la femme, lui donne une force intérieure, lui donne une force physique, lui donne une force, une possibilité de croître. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut être mangé, c'est-à-dire intégré par l'homme, que lorsqu'il est lui-même devenu un fruit. Adam n'était qu'une semence. Et c'est pourquoi Dieu dit, il ne faut pas qu'il mange maintenant de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie, il ne faut pas. Il faut qu'il mute, il faut qu'il progresse, et puis après je lui donnerai la vie. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères et sœurs? La connaissance est lente, elle tue, si l'homme n'est pas d'abord nourri par la vie que Dieu donne. Alors, il y a des gens qui ont une connaissance phénoménale. Vous allez lire, il y a des bouquins, des théologies, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'y a pas la vie dedans, et pourtant il y a une connaissance fantastique. Connaissance. Si l'homme mange la connaissance avant l'heure, prenons la connaissance de la main du serpent, il mute, oui, mais en régression. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont muté en régression. Alors oui, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, mais Adam et Ève étaient comme des semences de Dieu. Ils devaient devenir des arbres, puis ensuite ces arbres devaient porter du fruit, c'est-à-dire des dieux, des fils de Dieu. C'est ce que j'appelle la mutation. Comme le grain de blé est une semence qui doit mourir pour pouvoir muter, d'innocent se baladant dans le jardin, il mute pour devenir l'épouse de Christ finalement. Mais quel processus, mais quelle souffrance. Tout ça parce qu'ils ont pris de la main du serpent, ils n'ont pas attendu que ce soit Dieu qui leur donne à l'heure juste. Ils auraient dû se nourrir de tout d'abord, avant, et puis Dieu ensuite leur aurait donné. Et c'est tout un travail, comme le travail du grain qui meurt dans la terre, qui pousse, qui donne une tige, qui donne des feuilles, qui donne un épi, et puis ensuite il y a les graines, mais il y a encore la balle autour. Il faut enlever la base. Tout ça, c'est de la souffrance. Mais Adam et Ève ont muté en régression parce qu'ils se sont livrés au diable, à celui qu'ils ont choisi comme nouveau maître, celui qu'ils ont cru. Et le diable va les entraîner en esclavage. Et cet esclavage va faire entrer toutes sortes de souffrances, abominables souffrances, qui va pousser les fils et les filles de Dieu à confesser finalement leur péché et à revenir à Dieu. Celui qui ne progresse pas, qui ne mute pas vers le haut, va de régression en régression et il est finalement renvoyé dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Par contre, s'il se convertit, s'il change de chemin, s'il revient à Dieu avec humilité, avec foi, avec persévérance, traversant les diverses épreuves victorieusement, il entre dans la glorieuse déification. Croyez-vous que Dieu va épouser une vache? Non, Dieu va épouser une déesse. L'épouse de Christ est une déesse. Qui peut me donner un amen?
Amen.
C'est-à-dire, il va épouser un être qui lui ressemble vraiment dans la plénitude. Celui qui progresse, il entre dans la glorieuse déification, c'est-à-dire à la ressemblance de Dieu, accomplissant en lui-même ce que dit 1 Jean 4, 17, « Tel est Jésus, tel nous sommes dans ce monde. » Jésus était quoi? Le second Adam, le Adam parfait. Et nous le sommes par la foi, par le fait qu'il nous a pardonné, par le fait qu'il nous a purifié, par le fait qu'il nous a justifié. Mais ça, c'est juste le départ. Maintenant, il faut grandir là-dedans. Il faut muter en progression, recevoir tout ce qu'il a à nous donner, prendre part aux souffrances de Christ, prendre part au salut des autres, des vivants et des morts, et toutes ces choses. Et ça, ça ne se fait pas par magie. Cela implique que tu obéisses aux lois des mutations. Une chenille, elle devient un papillon, pas comme ça, hein. C'est tout un travail. Puis regardez l'histoire, tous les stades par lesquels l'humanité a passé, tous les stades par lesquels l'Église de Jésus-Christ a passé. C'est divisé, il y a eu la vraie, il y a eu la fausse, et les deux marchent ensemble, elles se ressemblent comme l'ivraie et le bon grain. Et puis il y a eu sept âges de mutation pour l'Église. Regardez l'histoire de notre communauté. Les choses ne restent pas les mêmes. Certains mutent en régression, se séparant. D'autres mutent en progression vers l'unité. Mes frères et sœurs, les souffrances et la patience, ça produit la qualité. Ce matin, je parlais avec Philippe, par Watch, je n'arrive pas à le dire, AppWatch, et il me disait qu'il a parlé avec un producteur local, là-bas où nous allons, et ce producteur local produit donc des fruits, et il lui disait que plus le fruit souffre, mieux il est. C'est bizarre, hein? Alors ne vous laissez pas aller au découragement. Ces souffrances sont nécessaires. 1 Pierre 4, 12, 19. 1 Pierre 4, 12, 19. Je vais vous faire la lecture. C'est 1 Pierre ou c'est 2 Pierre? Ça va être 2 Pierre. 2 Pierre 4, 12, 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Ah, je suis surpris que ça arrive, une chose comme ça. Non, soyez pas surpris. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est où? Au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est Christ qui souffre. Et nous avons part à ces souffrances. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Plus nous aurons souffert, plus notre joie sera grande quand il apparaîtra. C'est une évidence. Bon, ça ne veut pas dire que je demande à souffrir encore plus, mais... une souffrance à la fois. Hein. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, Jésus, vous êtes heureux, vous êtes en marche, vous êtes en progression, vous êtes en train de muter vers le haut. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Quand ils disent que le Saint-Esprit et l'ange qui me parle, c'est les démons, ce sont des blasphèmes.
Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ces souffrances sont nécessaires. Alors, on nous en avait déjà fait, hein? Je disais hier, à chaque fois qu'on me fait une souffrance, j'achète quelque chose de beau pour me réjouir. C'est pas ma seule consolation, mais c'est vrai que, par exemple, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, c'était quand il y avait eu un couple, je crois, qui nous avait quittés. Alors, voilà, on avait été acheter ces chaises. Vous vous rappelez de ça? Et là, bon, ben voilà, on continue. Moi, c'est une façon matérielle de me réjouir. Mais je n'ai pas qu'une façon matérielle de me réjouir. Mais je suis quand même dans la matière aussi. Bon, alors. On nous en avait déjà fait. Mais des comme celle-là, on ne nous l'avait jamais faite. Partir en restant. Et, hein, ça, c'était jamais vu. C'est difficile, hein. C'est spécial. C'est la pire de toutes. Alors là, on m'en a fait dans ma vie, mais des comme celle-là, jamais. C'est la pire de toutes. Alors, réjouissons-nous encore plus que pour les autres histoires. Réjouissez-vous, mes frères et sœurs. Nous sommes outragés, traités de voleurs. La Michou voleuse. Quelle honte. Nous sommes traités de possédés. Nous sommes traités comme nous ingérants dans les affaires des autres, parce que je demandais à leur gamin d'être poli, de nous dire bonjour et de dire merci. N'est-ce pas ainsi que doivent être traités les serviteurs de Dieu? Mais bien sûr, les serviteurs de Dieu doivent être outragés. Lisons 2 Corinthiens 4, 7, 9. 2 Corinthiens 4, 7, 9. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Si j'étais pas imparfait, si j'étais parfait, alors les gens pourraient dire, mais voilà, mais c'est extraordinaire, ces miracles et toutes ces choses, ça, c'est vraiment, Dieu s'est réincarné. Vous vous rappelez l'autre qui pensait que j'étais Jésus, qui s'était réincarné? Vous vous rappelez de lui, là, hein? Monsieur Prosper Yoplaboum. Eh bien non, c'est parce que je suis justement imparfait que toute la puissance et la gloire reviennent à Dieu. Nous sommes pressés de toute manière. C'est Paul qui parle, hein? Mais c'est nous aussi. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. On n'est pas réduits à l'extrémité, mes frères et sœurs. On n'a encore pas versé notre sang dans cette histoire. Hein? Sauf Dominique qui s'est cassé la figure hier soir. Le pauvre. Mais j'ai fait la même chose il y a quelques semaines. La lumière s'est pas allumée et je me suis encoublé, comme on dit en Suisse, sur le barbecue. Ça fait bobo, hein, Dominique? Mais ça, c'est rien du tout. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Vous voyez, c'est une détresse, c'est une souffrance, mais c'est pas le désespoir. Vous êtes désespérés? Hein? Mais non. Persécutés, mais non abandonnés. Vous êtes abandonnés? Mais non, moi je vous aime toujours. Et vous m'aimez aussi? On s'aime, alors c'est bien. Pas abandonné, abattu, mais non perdu. C'est vrai qu'il y a des moments où on est abattu. Philippe Clerc, l'autre jour, dit, mais qu'est-ce que vous faites comme tel? Je dis, je suis abattu. Mais il ne faut pas. Je dis, oui, mais de temps en temps, voilà, quoi. Hein? Abattu, mais non perdu. On n'est pas perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Voilà, vous comprenez mes frères et sœurs, c'est pas compliqué quand même. Hein? C'est arrivé aux autres, c'est pas que, y a pas qu'à nous que ça arrive. Il n'y a pas qu'à nous que ça arrive. L'apôtre Paul était abandonné de tous, lui, de tous. Je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux qui sont restés avec lui. Oui, ouais, le bon chrétien, là. Eh ben, c'est bien fait pour lui. Il était trop autoritaire, et puis il était macho, et nini, et gna gna. Voilà ce qu'il devait dire les gens à l'époque. Bande d'idiotes. Lisons 2 Corinthiens 5, 8, 10. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Voilà où il vivait. Mais c'est vrai, c'est un peu ça. Hein? Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Ah, moi j'ai une réputation épouvantable dans certains endroits. Hein? Et puis j'ai une bonne réputation formidable dans d'autres. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la dichotomie. Et ceux qui me font une mauvaise réputation, ça va leur tomber sur le coin du groin. Parce qu'on récolte toujours ce que l'on... Et voilà. Étant regardés comme des imposteurs, quoique véridiques. Ah là là là, Michel, t'es un imposteur. Ah bon? Eh ben alors, voilà. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Comme inconnu, quoique bien connu. Hein, c'est rigolo, tous les gens qui nous connaissent bien, et puis nous, on ne les connaît même pas. Comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Amen.
Amen.
Vous êtes toujours joyeux?
Oui.
Moi aussi. Moi aussi. Quand j'ai un petit moment d'abattement, hop, je me bois un petit café, et puis c'est reparti comme à 14. Je me mets devant mon Seigneur, et puis c'est bon. Et puis je me laisse engueuler par Michou qui me dit « Eh oh, un petit sourire là, ça va pas te gercer les lèvres !» Ou alors par Liliane qui se fout de ma poire et puis qui me fait rigoler, ou Marc, et voilà, puis c'est bon. Alors, quoique non mis à mort, comme attristé, mais nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Ah ouais? Ça on peut le dire, hein? Ça on peut le dire qu'on en enrichit plusieurs. Ouais. Comme n'ayant rien et nous possédons toute chose. Alléluia. Voilà, voilà, voilà comment était l'apôtre Paul. Et vous voudriez qu'on soit autrement. Et moi, je suis content de pouvoir m'identifier à tous ces textes. C'est formidable de pouvoir s'identifier à tout ça, de dire ah, mais c'est super, ça m'arrive à moi maintenant. Gloire à Dieu, c'est génial. Amen. C'est bien. Restez fidèles, mes frères et sœurs. Frères et sœurs. Tout ça, ça fait quoi? Ça accélère notre mutation. Notre mutation en progression. Non pas notre mutation en régression. Parce que nous construisons avec des vraies pierres et non pas avec des briques et des brocs. Restez fidèles. Votre récompense approche. N'en doutez pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Merci Jésus de donner du courage à ceux qui sont un petit peu découragés ce matin. Par toutes sortes de réflexions, de méchanceté, de mesquinerie, de bêtises. Seigneur, montre à chacun que on n'a pas atteint des extrémités de souffrance épouvantable. Permets que nous relevions la tête et les cœurs, que chacun soit vraiment content de ce qui arrive et pas seulement regarder les choses mauvaises et désagréables. Merci Seigneur Jésus de nous aider à être ferme dans la foi et à muter en progression, les laissant muter dans la régression. Merci Seigneur Jésus de nous bénir et que cela soit évident aux yeux de tous. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. On va chanter maintenant quelques cantiques.